Je voudrais ce matin que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, auprès d'un chapitre ô combien connu, le chapitre 23. Psaume 23. J'ai beaucoup aimé, il y a une prière qui m'a plu puisqu'elle convergeait, j'allais dire, à la pensée que Dieu a placée sur mon cœur pour nous ce matin. Le frère a dit, pour taire son nom, et il a dit, « Seigneur, je te remercie parce que tu as été un bon berger pour moi. » Et je crois que, tant que nous restons dans le creux de la main du Seigneur, il demeure, il reste toujours ce bon berger pour chacun d'entre nous. Alors il serait bien peut-être de redécouvrir un petit peu ce chapitre 23. Et je vous propose, puisqu'il n'y a que 6 versets, de pouvoir le relire entièrement. Est-ce que c'est faisable ça ? Psaume chapitre 23, à partir du verset 1, on comprend, c'est le cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen et Amen. » Nous connaissons tous, pratiquement tous, le psaume 23 et nous en connaissons même l'auteur puisque ce fut un grand roi qui composa ce cantique, c'est ni plus ni moins, c'est un cantique. Et ce grand roi, vous le connaissez, c'est le roi David qui régna sur le peuple d'Israël environ une quarantaine d'années. Quand David a composé le psaume 23, il savait parfaitement de quoi il parlait puisque... En plus d'être roi, il a été aussi, entre autres, berger, puisqu'il s'occupait des brebis donc de son père, et durant de longues années. Et David connaissait bien sûr, les soins et l'attention qu'il faut prodiguer, on va dire, à l'ensemble d'un troupeau pour qu'il soit en bonne santé. Et justement, j'en suis convaincu, en réfléchissant à tous les bienfaits, tous les soins que Dieu pouvait lui apporter, David n'a pas pu s'empêcher de comparer Dieu à un bon berger. Un bon berger, je précise, qui prend soin de ses brebis. Et il n'avait pas tort de pouvoir comparer Dieu à un bon berger. Parce que déjà, Dieu lui-même se présente comme un berger qui fait paître ses brebis. Je vous donne juste 2 versets. Prenez des notes, n'hésitez pas. Et pour relire tous ces passages chez vous, Ézéchiel, par exemple, chapitre 34 et le verset 15, nous lisons ensemble, et c'est Dieu qui parle par la bouche de son saint prophète. Il dit, « C'est moi, dit Dieu, qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. » Et c'est un verset parmi tant d'autres. Je pourrais en rajouter un autre. C'est dans, cette fois-ci, le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40 et verset 11. Il dit, « Comme un berger, il paîtra son troupeau. » Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. C'est beau ça. Il conduira les brebis qui allaitent. Le Seigneur, il a une attention particulière à l'égard de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas tous pareils. Est-ce qu'on l'a compris ça ? Même physiquement, bien que je sois votre frère, vous savez, je suis un peu plus basané. Voilà, on va dire. On est tous différents. Mais suivant même notre position spirituelle, même notre avancée, le Seigneur, il sera prendre soin de nous parce qu'il est le bon berger. Et combien ici, en ces lieux, reconnaissent Dieu comme étant leur berger ? Combien ici, pourraient se reconnaître comme la brebis du Seigneur ? Moi, je peux lever la main, mais je sais que je ne suis pas seul. C'est tellement merveilleux de reconnaître Dieu comme notre berger. Un berger qui veut prendre soin de nous. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu désire être le berger de tous les hommes. Parce que mon Dieu, il ne fait exception de personne. Et peut-être toi qui ne connaîtrais pas le Seigneur, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, Dieu désire ce matin être ton bon berger. Il suffit peut-être pour toi que tu puisses accepter Dieu comme ton sauveur et comme ton maître. Il suffit ce matin que tu puisses te reconnaître comme tel, c'est-à-dire un pécheur, mais qui est aimé du plus grand des dieux, le Dieu d'amour qui a créé le ciel et la terre et qui a tellement aimé l'homme qu'il a livré son fils Jésus-Christ à la croix pour le pardon de nos péchés. Pour que Dieu devienne eh bien, ton père, mais aussi ce bon berger, il suffit pour toi que tu te convertisses à Dieu et que tu lui appartiennes pleinement. C'est un choix de pouvoir choisir Dieu eh bien, comme notre bon berger. Il suffit pour toi que tu t'approches de lui. Et alors à l'instant même, Dieu deviendra ton berger. Et toi, hein, tu deviendras bien sûr la brebis merveilleuse du Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et vous savez, la bonne nouvelle, lorsqu'on a Dieu pour berger, alors on l'a lu ensemble au verset 1, on ne manque de rien. Quel est le chrétien qui se respecte ce matin et qui pourrait dire, eh bien, je manque de ceci et de cela, etc. Vous savez, Dieu donne eh bien, à ses enfants toutes choses belles en son temps. C'est peut-être notre impatience qui voudrait précipiter les choses. Mais Dieu, tel un père, mais mieux encore un berger, sait nous donner au bon moment ce dont nous avons besoin. Mais Dieu ne peut pas mentir. Et par la bouche eh bien, de cet homme, de Dieu, David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as tout ce dont tu as besoin. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il pourvoit nos besoins, quels qu'ils soient. Et il veut eh bien, continuer à le faire. Et d'ailleurs, quand on relit tout ce chapitre 23, finalement, du verset 2 jusqu'au verset 6, ce sont ni plus ni moins des exemples de soins que Dieu est capable eh bien, de nous prodiguer en temps et en heure. Et justement, je voudrais ce matin m'arrêter juste sur un de ces cinq versets qui donnent des exemples des soins que Dieu, en tant que berger, prodigue à ses brebis. Et ce verset, c'est juste le verset 2. Commençons par le commencement. Il nous est dit, et c'est David qui parle, Psaume chapitre 23 et le verset 2, « Il me fait reposer où ? Dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Alors comprenez, quand on lit ce passage, eh bien ça nous inspire de la quiétude. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. On va y revenir tout à l'heure. Ça inspire quoi ? Le repos, la paix, ou non, quand on lit ces passages ? Ah oui ? Et c'est exactement eh bien, ce que le Seigneur voudrait inspirer dans nos cœurs. Et vous l'avez compris, ce choix de verset 2 n'est pas anodin. Il est volontaire de ma part de pouvoir aujourd'hui parler de repos, de pouvoir parler de tranquillité en Dieu. J'ai voulu le faire justement en opposition à la veille de la rentrée, on va dire scolaire, la rentrée, eh bien pour chacun d'entre nous. Et effectivement, puisqu'à partir de demain, eh bien c'est le chemin de la rentrée pour plusieurs travailleurs ici en ces lieux. On va reprendre le chemin eh bien du lieu de notre travail. Les enfants, les jeunes vont reprendre le chemin de l'école. J'ai entendu au journal télévisé, près de 12 millions d'enfants vont retrouver le chemin de l'école. Même ici, au sein de cette église locale, on va, au fur et à mesure, petit à petit, doucement mais sûrement, reprendre nos activités. Il y a près d'une dizaine, plus de quinzaine, eh bien, ici, d'activités, de secteurs d'activités. C'est vrai qu'il y aura comme un fourmillement, un frémissement eh bien d'activité au sein même de notre ville. Le bruit va refaire eh bien son apparition. Il n'y a pas plus calme que la période de vacances d'été. Les villes semblent être comme désertées. Mais quand la rentrée revient, eh bien le bruit revient. Et puis après, c'est les embouteillages, c'est quoi encore les klaxons. Alors peut-être pas vraiment ici en ville, mais je pense aux grandes métropoles, puisque je suis resté quand même 4 ans, eh bien sûr Marseille. Vous êtes au feu, et le feu est rouge, mais dès qu'il passe au vert, vous avez quelque part quelques fractions de secondes pour démarrer et pour avancer. Parce que de toute façon, on va vous klaxonner. Ah, c'est presque irrémédiable. Le bruit du chien du voisin. Eh oui, parce que tant qu'il était parti, tout va bien, mais quand il est revenu avec son chien. Et on entend à nouveau eh bien, des bruits. Je donne des, comme ça, pêle-mêle, quelques exemples de la vie courante. La fin des vacances d'été va laisser place à un fourmillement d'activités au sein de notre ville. Et bref, pour certains, finalement, la reprise des activités est quelque part synonyme d'appréhension. Pour d'autres, d'énervement. Et pour d'autres encore, c'est synonyme de stress. Et justement, Dieu ne veut pas que nous vivions eh bien, notre rentrée de cette manière-là. Excusez-moi l'expression. Dieu voudrait qu'on puisse rentrer dans cette rentrée d'une manière cool, détendue, avec le repos du cœur. Dieu ne veut pas que nous vivions notre rentrée avec de l'appréhension, de l'énervement ou du stress. Dieu voudrait que nous débutions cette rentrée d'une manière sereine, d'une manière calme. Et comme nous l'avons lu justement dans ce verset 2 du psaume 23, nous devons premièrement laisser Dieu, notre bon berger, nous faire reposer dans de verts pâturages. On l'a lu, il faut commencer par cela. Mon bon berger, Dieu me fait reposer dans de verts pâturages. C'est lui qui me fait reposer. C'est pas nous. Ah, c'est marrant, quelquefois on dit, mais Seigneur, je veux te suivre. Mais par contre, viens là où je vais. Non, laisse Dieu, le bon berger, te conduire. Vous savez, la vision, j'aime à le dire, la vision du berger est toujours plus grande que celle des brebis. Brebis, elle a presque la vision à la hauteur des herbes. Mais le berger a une vision beaucoup plus longue, plus grande. Et Dieu sait où il veut nous mener, jour après jour. C'est lui qui désire nous y conduire, dans ses verts et gras pâturages. Il sait parfaitement où et comment nous pouvons trouver du repos pour tout notre être. Vous savez, je pense que vous serez d'accord avec moi, on peut avoir passé les plus belles vacances au monde, dans un lieu paradisiaque, j'ai envie de dire, sans toutefois réellement avoir trouvé du repos, que ce soit sur le plan physique ou même sur le plan mental, de l'esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelquefois, on revient même des vacances, aussi belles soient-elles. On revient des vacances quelquefois plus fatigué qu'auparavant. Oui ou non? Ce sont des réalités. Mais Dieu sait où trouver de verts pâturages. Là où nous pourrons non seulement nous restaurer, nous rassasier, mais également là où nous pourrons trouver du repos. Et il faut commencer par cela. Pour accéder à ces verts pâturages, il nous faut immanquablement passer par la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Je ne pouvais pas ne pas parler de Jésus. Jésus, c'est le centre même de notre vie, c'est la raison d'être de notre foi. Jésus est incontournable. Jésus est le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est celui qui a été dépêché depuis le ciel pour venir parmi les hommes, se confondre parmi les hommes et finalement faire ce que nul autre homme n'a pu faire, c'est-à-dire livrer sa vie à la croix, afin que nous soyons tout à nouveau en connexion avec ce berger d'amour. Jésus a lui-même déclaré qu'il est la porte. Il y a un fameux chapitre dans l'évangile selon Saint Jean, Jean chapitre 10, où le Seigneur non seulement se présente comme étant le bon berger, mais comme également étant la porte. Jean chapitre 10, c'est le verset 9. Regardez avec moi. Je veux qu'on soit comme les Bériens ce matin et qu'on vérifie dans la parole ce que nous partageons ce matin. Jean chapitre 10, c'est le verset 9. Jésus qui parle à qui veut bien entendre, il s'adresse à ses disciples et il dit « Je suis là, la porte ». Si quelqu'un ou quelqu'une entre par moi, il ou elle sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera quoi ? Des pâturages. On y retrouve là, on retrouve notre psaume 23. Il est le berger mais il est aussi la porte qui permet d'accéder dans cet enclos où il y a les verts pâturages. Et il s'agit pour nous d'entrer par cette porte et cette porte c'est Jésus. Et alors lorsqu'on rentre dans cette porte, derrière cette porte, nous trouvons tout ce dont on a besoin. Nous trouvons ces verts pâturages. Peut-être qu'il y a des personnes dans cet auditoire qui sont fatiguées. Et ils sont fatigués moralement, ils sont fatigués physiquement. Et même des personnes qui appréhendent la reprise de leur activité avec beaucoup de stress et peut-être même avec beaucoup d'angoisse. Si c'est votre cas, alors l'invitation de Jésus demeure pour vous ce matin. Vous connaissez également ce passage, Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30, on va le lire. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, Jésus qui parle. À toi mon frère, à toi ma sœur qui est fatiguée, à toi peut-être qui viens pour les premières fois et qui est fatiguée de te battre avec la vie que tu mènes. Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'invitation est formelle, elle est universelle, elle s'adresse à tous les hommes, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et il rajoute au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car, précise-t-il, mon joug est doux et mon fardeau léger. Je le dis avec assurance pour l'avoir expérimenté et pour continuer à l'expérimenter. C'est vraiment auprès de Dieu qu'on trouve le vrai repos. On peut acheter tous les oreillers du monde, les plus gros matelas, les plus épais matelas. Le véritable repos du corps, de l'âme et de l'esprit se trouve en Jésus. Et quand on l'a expérimenté, on ne peut que dire Amen. Mais voilà, Jésus, il apporte quelques précisions, verset 29. Si on peut la voir à nouveau sous l'écran, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Voilà la condition pour recevoir le repos de Dieu. Prenez mon joug. Et les gens ne comprennent pas toujours ce que veut dire le joug. Prenez mon joug. Alors Seigneur, je ne comprends pas. Tu veux que j'enlève finalement un joug de fatigue sur mes épaules pour en remettre un autre ? Oui, mais il est dit au verset 30, mon joug est doux, mon fardeau léger. Il brise tout joug eh bien, qui te fait courber les chines, qui fatigue tes épaules. Et il en met un tout doux, un qui est soyeux, un eh bien, qui est, alléluia, merveilleux. Et ce joug, il est ni plus ni moins l'image de la soumission à laquelle eh bien, nous sommes invités à avoir en Jésus-Christ. Comprenez ce passage de cette manière-là. Verset 29, prenez mon joug. Quand Jésus dit cela, c'est juste qu'il nous demande, soumets-toi à moi. Soumets-toi à moi. Et c'est là le problème. On veut bien Jésus. On veut bien le repos qu'il veut nous accorder. Mais on n'est pas toujours disposé à pouvoir se soumettre. Et se soumettre à quoi ? À bien soumettre à ses instructions. Et ses instructions se trouvent dans sa parole, frères et sœurs. Nous avons tout ce dont on a besoin dans la parole de Dieu. Et ça me permet eh bien, d'arriver vraiment au fait en disant que finalement, les verts pâturages, finalement, c'est quoi les verts pâturages ? Il me conduit, il me dirige vers les verts pâturages sur le plan spirituel. Eh bien, les verts pâturages sont ni plus ni moins l'image de la parole de Dieu. Et là, j'aurais aimé entendre un plus grand Amen. C'est la parole, celle que nous ouvrons là en cet instant. C'est là, mon frère, ma sœur, où tu pourras t'ouvrir des vrais pâturages. Il n'y a pas meilleur endroit pour restaurer notre être que les verts pâturages de la parole de Dieu. Elle est bien cette expression, les verts pâturages de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez, le mot pâturage, quand on regarde un petit peu dans la traduction grecque, eh bien, le mot pâturage en français est la traduction du mot grec nomei. Et nomei, eh bien, on trouve une racine dans ce mot nomei, ce mot grec, nomos. Or, nomos se traduit entre autres par le mot loi, commandement, précepte. Pâturage, par extrapolation, c'est ni plus ni moins les lois, les commandements, les préceptes que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et c'est la méditation sérieuse de la parole de Dieu qui va produire en nous tout ce dont on a besoin. La paix, la joie. Pourquoi les gens sont si malheureux comme cela ? Et ils essayent de chercher dans toutes sortes de moyens à bien être heureux. Nous avons la solution. La parole de Dieu, elle est capable de nous rendre joyeuses. Est-ce que vous êtes contents ce matin ? Est-ce que vous êtes heureux ce matin ? On a un avenir. On a de l'espérance, même si le journal télévisé nous montre plein de choses, les catastrophes et ces hectares de forêt qui se détruisent. Mais nous, on a une espérance. Hein, tous pas un seul iota de notre maison qui se trouve dans le ciel. J'ai une maison qui se prépare là-haut. Et pour avoir travaillé dans les bureaux d'études, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. On a travaillé avec des architectes. Mais le meilleur des architectes nous prépare une maison à chacun d'entre nous. Il s'agit pour nous de persévérer et de suivre le meilleur des maîtres, notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit la chose suivante. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous pouviez voir ma dernière fille, Christelle, quand elle a saisi le sein de mon épouse, excusez-moi, cette soif, ce désir de pouvoir se nourrir, il faut qu'on ait eh bien, aussi ce même désir, jour après jour, d'être en contact avec ce lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Et écoutez-moi bien, ne laissez rien ni personne vous éloigner de la parole de Dieu. Un jour, je vous ferai monter dans mon bureau. Chacun à son tour. Et vous verrez tous les livres qu'il y a là. C'est une chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est bien les livres. C'est bien. Et je regarde en plus Brigitte dans le coin de l'œil. Merci Seigneur pour les livres. Merci Seigneur pour les bibliographies. Mais jamais ça ne pourra remplacer la parole de Dieu. Au risque d'en choquer, jamais l'Internet pourra remplacer la parole de Dieu. Jamais l'homme pourra remplacer ce que Dieu veut nous dire directement au travers de sa parole. C'est pourquoi on a besoin plus de s'attarder sur la parole de Dieu que pouvoir aller entendre courir à droite, à gauche des hommes. On a besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et ça ne peut se faire que par l'intimité de notre communion avec Dieu jour après jour. C'est tellement, tellement important. Tellement, tellement important. On voudrait recevoir les choses et ne pas entrer dans ce... Parce qu'il y a une chose, il faut lire la parole de Dieu, mais il faut surtout la méditer. Et laisser notre esprit être imprégné de la parole de Dieu, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Je pense également à cette épître, l'épître de Jacques, où Jacques nous invite à plonger nos regards dans la parole de Dieu. Il y a un effort. À l'époque, quand la manne tombait, il était demandé à ce que les Hébreux, chacun pour sa part, ramassent la manne. Aujourd'hui, on voudrait que les autres ramassent pour nous. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nos rencontres plénières nous permettent bien d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce que ce que je vous dis, je le dis à moi-même. Mais il est incontournable, indéniable que chaque jour nous puissions nous discipliner à ouvrir cette parole de Dieu et laisser Dieu nous parler directement par cette parole. Je ne peux pas concevoir, et vous non plus, eh bien, qu'on puisse arriver à connaître tellement de livres, à pouvoir écouter tellement de prédicateurs via Internet sans avoir lu la Bible. Sans avoir lu au moins une fois la Bible et tous ses chapitres et tous ses livres. Il y en a 66. Donc vous avez déjà la bibliothèque. Et il est important de pouvoir la connaître et la relire, la reméditer plus en profondeur. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre est à notre disposition où ? Dans la parole de Dieu, dans les verts pâturages de la parole de Dieu. La parole de Dieu, par exemple, a le pouvoir de nous sauver. Il nous est dit dans 2 Timothée 3,15, prenez des notes, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Il y a des gens, même des extrémistes, je connais cette histoire, ce témoignage. On a demandé à un extrémiste musulman de pouvoir lire la Bible pour en déceler des erreurs. Il ne le voulait pas au départ, mais on lui a imposé et il l'a lu. Et en lisant juste la parole de Dieu, cet homme a été converti, sauvé. Il y a un pouvoir. Il y a une puissance qui émane de la parole de Dieu. Et plus je la connaîtrai, plus je serai utile aux autres. L'apôtre Paul dira à ce jeune serviteur de Dieu, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Mais on veut convaincre les gens avec nos propres paroles. Et c'est là qu'on fait fausse route. Le Saint-Esprit va convaincre les gens par la parole qui sortira de ta bouche. La parole de Dieu. La parole de Dieu a aussi le pouvoir de fortifier notre foi. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où ? De la parole de Christ. La parole de Dieu a le pouvoir de nous guérir. Psaume chapitre 107 et le verset 20. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La Bible, en la lisant, a ce pouvoir de guérir même nos maux les plus profonds, les plus cachés, les plus secrets. Juste en la lisant, en la méditant, le Saint-Esprit fait le reste. Si nous le croyons, nous le verrons. Mais en tout cas, voilà ce qu'il est dit. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Un autre exemple, la parole de Dieu a aussi le pouvoir de nous sanctifier. Nous sommes dans notre thème, Jean chapitre 17. Verset 17, ce thème de cette année, la sanctification, la Bible nous dit, il nous dit, Seigneur, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et plus nous allons la lire, consciemment ou inconsciemment, elle va nous séparer de l'esprit de ce monde. Elle va nous séparer du mal. Elle va nous donner à avoir en horreur le mal. Plus on sera imprégné de cette parole, plus le Saint-Esprit va faire ce travail de transformation pour que nous soyons transformés en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Et je lis tout simplement ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Ton être tout entier est languissant et spirituellement affamé. Parce que depuis un certain temps, tu négliges de te nourrir de la parole de Dieu. Et quand il t'arrive de la lire, ton cœur ne se laisse pas pénétrer par elle. Comment peux-tu croire que tu survivras en t'abstenant de te nourrir de ma parole, te dit ton Dieu ce matin. Prive la brebis de sa nourriture et elle finira par mourir, dépérir. Il en est de même pour la brebis spirituelle que tu es, mon frère, ma sœur. C'est juste une question de temps. Si nous abstenons même de nourriture physique, nous allons dépérir. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Il nous faut la lire. Et non pas de manière machinale, mais la lire comme eh bien, pour avoir une rencontre, un contact avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages, les verts pâturages de la parole de Dieu. » Et je voudrais bien sûr terminer en parlant eh bien sûr de ce deuxième volet, de ce verset 2. « Il me fait... » reposer dans de verts pâturages, mais il me dirige également vers les eaux paisibles. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'arriver à un endroit, certainement souvent bien dans des endroits élevés, dans les montagnes, auprès d'un lac, limpide, calme, pas une seule vague. Loin des bruits de la ville, loin bien de la frénésie de ce monde. Et être finalement envahi par un calme soudain dans notre cœur intérieur. C'est un bon endroit pour méditer. Il me dirige près des eaux paisibles. Eh bien, Dieu désire que nous expérimentions ce repos au quotidien même, à la veille d'une rentrée, une reprise des activités. Une autre version traduit cette deuxième partie de verset 2 par la phrase suivante. « Il me mène vers les eaux du repos. » Ah, j'aime beaucoup, c'est la version Jérusalem. « Il me mène vers les eaux du repos. » Et les eaux du repos nous parlent bien sûr de la merveilleuse présence de Dieu et de celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur endroit pour bien apprécier, pour se délecter du repos et de la paix de Dieu. C'est là que nous pouvons réellement trouver la paix et le repos de tout notre être. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour le roi Élie. Le prophète Élie. Lorsqu'il a fait tomber le feu du ciel, et puis parce qu'une menace, une fatwa, on va dire, est tombée sur sa tête, il a pris peur, il est parti s'enfuir, et s'installant sous ce genêt, il demandait même la mort, il était dans la dépression, il était dans l'agitation. Son cœur n'était plus en repos. Un ange est venu du ciel et à plusieurs reprises lui a proposé de l'eau et des pains, alléluia, sur des pierres chaudes. Mais là où il a trouvé du repos, c'est là où Dieu l'a envoyé. Parce qu'avec la force dont il s'est nourri, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits. Et là, sur la montagne, à Horeb, il y a eu cette fameuse rencontre avec Dieu. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans un grand bruit. Non, Dieu, il était là au travers d'un doux murmure, tout près de Dieu. Et c'est là qu'il a repris, excusez-moi l'expression, il a repris ses esprits. C'est là où il a pu entendre la voix de Dieu. C'est auprès de Dieu, dans sa présence, que l'on retrouve pleinement le repos dont nous avons besoin. Un autre exemple que j'ai placé là sur mes notes, c'est celui du démoniaque dans Marc chapitre 5. Cet homme se trouvait dans un endroit tout près du lac de Galilée. Personne ne pouvait le saisir. La Bible nous dit qu'il hurlait. Nuit après nuit, il hurlait. C'était la hantise des petits-enfants du village d'à côté. L'homme de Gadara, ce démoniaque qui se meurtrissait avec des pierres et dont aucune chaîne ne pouvait retenir la démence. Mais cet homme, lorsqu'il fut au contact de Jésus, tout a changé. La Bible nous dit, vous relirez Marc chapitre 5, la Bible nous dit qu'après que Jésus ait chassé ce qui le tourmentait, cet homme fut assis, vêtu et dans son bon sens. Et le fait qu'il soit assis est l'image du repos. Lorsque Jésus vient, lorsqu'on accepte ce contact avec Jésus, il nous apporte le repos. Et souvent, quand les personnes sont délivrées de puissances ténébreuses, ils se sentent tellement fatigués. Et ils ont besoin de se reposer. Et ce repos se trouve en Jésus. Un autre exemple que j'aurais pu vous accorder, oui, c'est la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, on l'a jetée au pied du Seigneur. Et imaginez-vous à cet instant ce bruit autour d'elle, de ces hommes qui l'accusaient. Il faut la lapider selon la loi. puisqu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Mais là, au pied du Seigneur Jésus, la donne a changé pour cette jeune femme. Elle qui était dans l'agitation, elle qui manquait de repos, elle qui était oppressée par toutes ces accusations, au contact de Jésus, Jésus s'est occupé de ses accusateurs, au point qu'ils se sont retrouvés tout seuls. Le Seigneur a éloigné le bruit des accusations loin d'elle. Et Jésus, mieux encore, lui a accordé le pardon. Et j'ai envie de dire le repos et la paix du cœur. Va et ne pêche plus, parce que moi non plus je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. De même, mon frère, ma sœur, ton agitation, tes angoisses, tes peurs peuvent cesser aujourd'hui même. Ils peuvent cesser, et pourvu que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire dans la présence du repos de Dieu. Il s'agit pour toi d'écouter ce que Dieu veut te dire au travers de ce message ce matin et laisser le Saint-Esprit, lui seul, est capable de te conduire là où tu trouveras vraiment du repos au niveau de ton esprit. Ça travaille beaucoup, hein ? Et on réfléchit. Qu'est-ce que je vais devenir ? Où est-ce que je vais dormir ? Ou qu'est-ce que je vais faire comme travail ? Et ça, c'est uniquement sur le plan matériel. Mais quand les questionnements viennent au niveau de l'âme et mieux encore au niveau de l'esprit, c'est encore plus compliqué. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Ésaïe, chapitre 63, verset 14, que j'ai découvert dernièrement. Regardez, Ésaïe, chapitre 63 et le verset 14. Est-ce qu'on l'a, ma chère Patricia ? S'il te plaît, projette-le devant nos yeux. Voilà, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés où ? Au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. La bête dont il est fait mention, c'est bien sûr l'image de la brebis qui est conduite par le bon berger, mais il est conduit par l'esprit du bon berger. L'esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Laisse-toi conduire par le meilleur des bergers. Laisse-le te conduire par l'Esprit de Dieu. Rendez compte, à l'époque, le peuple hébreu, des millions de personnes sorties du pays d'Égypte, ont été conduits par cette espèce de colonne de nuée. C'était quelque chose de miraculeux. Nous sommes appelés à vivre le miraculeux au quotidien et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mais il est où le Saint-Esprit ? Mais tu n'as pas compris encore, il est en toi. L'apôtre Paul dit à ces fameux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Ils avaient besoin de le réaliser, eux qui avaient, paradoxalement, les 9 dons spirituels. Mais ils ne savaient pas. En tout cas, ils avaient besoin de pouvoir se rappeler qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de l'écouter, nous parler. Nous avons besoin de le laisser nous conduire, nous diriger. Je termine. Notre être tout entier peut si facilement s'égarer dans l'agitation. On est capable de paniquer mieux que donc a pu faire les disciples. Ils ont vu cette tempête venir les agiter au milieu du lac, mais ils avaient oublié que Jésus était tout près d'eux. Il est tout près de celui qui était capable de les mener dans la présence même du repos. Et on a besoin de ne pas se laisser agiter ou inquiéter par les adversités de ce monde, au point même d'en perdre la paix. Mais Dieu, notre bon berger, désire chaque jour nous faire reposer dans les verts pâturages de sa parole. C'est là où nous allons trouver de la nourriture, des forces spirituelles. Mange et bois, parce que le chemin est encore long pour toi. Et on va manger spirituellement par la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne vous contentez jamais de ces réunions plénières, que ce soit le dimanche ou en semaine. Mais c'est au quotidien qu'il nous faut nous nourrir. Dieu désire aussi nous diriger vers les eaux paisibles de sa douce présence, afin que par notre communion avec Dieu, nous nous abreuvions à longs traits de sa paix et de son divin repos. Que Dieu, frères et sœurs, nous aide à comprendre ces choses et qu'il nous aide à nous laisser conduire par le meilleur des bergers. Prions ensemble le Seigneur Jésus. Merci pour ce merveilleux psaume, le psaume 23. Seigneur, je veux croire que lorsque David, Seigneur, écrit « Seigneur Père, mon Dieu », ce merveilleux cantique, il l'a fait avec un cœur tout tremblant et avec beaucoup de joie. un chapitre qui a traversé les siècles et qui nous parle encore ce matin. Oui, tu es notre bon berger, avec toi nous ne manquons de rien. En Jésus-Christ, tu nous as tout donné. C'est pour ça que sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et tu nous invites ce matin à pouvoir pleinement nous laisser diriger vers les verts et gras pâturages qui nous apporteront de la nourriture, certes, mais aussi du repos. Tu veux nous conduire vers les eaux paisibles de ta présence. Tu veux que nous ne soyons plus agités, plus inquiets, parce que tu es là et ta présence fait la différence. Que les gens de ce monde soient agités, c'est une chose. Mais pour nous, chrétiens, pour nous, enfants de Dieu, pour nous, brebis du Seigneur, plus que jamais, tu nous envahis de ta paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, qui nous maintient dans une sérénité. Merci Seigneur pour la rentrée. Merci Seigneur pour les vacances. Seigneur Père, mon Dieu, tu ne changes pas. Et tu restes le même, et le même qui nous a gardés jusqu'à cette heure sera nous garder jusqu'au bout du voyage. Seigneur Père, mon Dieu, délivre-nous de toute confusion, de toute agitation, Seigneur. Et maintiens-nous, Seigneur, dans ta paix, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vois mes frères et mes sœurs qui sont fatigués, qui sont chargés ce matin. Et tu les réinvites à pouvoir trouver du repos en toi. Alléluia. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, y aura-t-il des personnes ici dans cet auditoire? Baissons les têtes, fermons les yeux s'il vous plaît. Y aura-t-il des personnes dans cet auditoire qui ont besoin de repos? Ça peut être du repos physique. Alors là, j'ai envie de vous dire, reposez-vous. Mais ça peut être aussi une fatigue morale ou spirituelle. Juste levez-vous à votre place. Et j'ai à cœur de prier pour vous. Tu es fatigué. Pourtant, tu es là ce matin. C'est la foi qui t'a mené. C'est le Saint-Esprit qui t'y a conduit. Pour que tu puisses entendre tout à nouveau les merveilleuses promesses de ce psaume. Les soins pastoraux que prodigue le meilleur des bergers. Il suffit pour toi de saisir ces paroles par la foi et de les vivre. Et Dieu va t'apporter le repos dont tu as besoin. Tu es fatigué et tes larmes, tu les caches, mais Dieu les voit et Dieu les compte. Il veut te soutenir, il veut t'apporter. On l'a lu tout à l'heure, il porte dans son sein les brebis, les agneaux, les agnelles. Et il veut faire pareil avec toi. Il a une grande tendresse pour toi. Il ne te méprise pas. Il ne t'accuse pas. Il est ton défenseur. Il est ton avocat. Il est le bon berger. Seigneur, tu connais ces personnes qui se sont levées. Et tu vois leurs besoins. Elles ne se cachent pas. Elles sont de ton troupeau et c'est parce qu'elles ont entendu ta voix ce matin qu'elles y répondent favorablement. Toi-même, tu l'as dit dans Jean chapitre 10. Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent et elles suivent ma voix. Seigneur, ce matin, elles suivent la voix de la foi. Seigneur, pour saisir, Seigneur, les promesses qui sont leur partage. Et tout ce qui pourrait les tourmenter, tout ce qui pourrait les fatiguer, le joug étranger qui pourrait se trouver sur leurs épaules soit brisé au nom de Jésus. Et qu'ils puissent, Seigneur, connaître une pleine délivrance et qu'ils acceptent en retour de recevoir tes instructions, ces promesses que tu nous as laissées ce matin. Parce que tu es leur bon berger. Seigneur, enlève toute forme de tristesse, tout ce qui les empêche même de dormir pour certains ou certaines. Je t'en supplie, mon Dieu. Tu es la réponse, tu es la solution. Et tu leur montres, Seigneur Père, mon Dieu, le chemin à suivre pour aller jusqu'aux eaux paisibles. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, tu as une grande attention, une grande délicatesse pour la brebis blessée, pour celle qui est malade, pour celle qui est fatiguée, qui est languissante. Tu es véritablement un bon berger. Tu nous prends au sérieux, ton amour est immense. Alléluia, tu revigores ce matin. Tu restaures, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Laisse Dieu faire. Laisse-le prendre le relais. Dans ta situation, dans ta cause, laisse-le combattre pour toi. Il est capable de terrasser tes ennemis. Il est capable de te donner la force pour que, alléluia, il puisse fuir devant toi. Il renverse une muraille. Avec mon Dieu, je renverse une muraille. On dit la parole de Dieu. Sois fortifié ce matin dans le nom de Jésus. Amen.